Les matins de France Culture.
Frédéric Saïs, le billet politique, les Paradise Papers et l'amnésie politique.
Oui, d'un côté, des révélations spectaculaires. Elles convoquent les stars les plus en vue ou les sociétés les plus discrètes. Elles mettent en lumière de simples contournements de TVA ou bien des affaires complexes de soupçons de corruption politique. Vous les avez entendus sur France Culture avec Abdelhak Idrissi et la cellule Investigation de Radio France. Pourtant, face à ces révélations, se dégage une impression de déjà-vu, comme une chorégraphie mille fois interprétée. D'abord, étape 1, le silence des pouvoirs publics en attendant de connaître précisément l'étendue des scoops, des noms dévoilés. Ensuite, l'indignation. Plus ces révélations mettent en lumière l'impuissance politique, plus les mots des gouvernants sont forts. Bruno Le Maire parle par exemple d'une attaque contre la démocratie.
Simplement, vous savez, l'argent trouve toujours les moyens d'échapper à l'impôt. Et les plus fortunés trouvent toujours les moyens d'échapper à un impôt que payent tous les autres concitoyens. Les classes moyennes, les plus modestes, eux, ils payent leurs impôts. Ils font pas d'évasion fiscale.
Voilà, on croirait entendre Georges Marchais qui fustige les possédants. Alors le rôle de la dignité outragée n'est pas toujours simple. En témoigne ce vilain lapsus de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée, le ministre des Comptes publics.
Évidemment, le contrôle, le renseignement et la poursuite, si cela effectivement est avéré, il n'y aura pas de tolérance zéro. Il n'y aura aucune tolérance zéro sur cette question très importante.
Il n'y aura pas de tolérance zéro, est-ce à dire que la tolérance sera maximale? Plus sérieusement, tout cela serait bel et bon s'il n'y avait eu des précédents, la crise financière, les Swiss Leaks, les Panama Papers, et déjà ce balai d'indignation et de réponses un peu péremptoires. Voici Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux.
Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu.
Un bel unanimisme, Frédéric. Et du côté des propositions, des réponses face à ce fléau?
Eh bien là encore, cela ressemble furieusement à une expérience déjà vécue. On nous parle de dresser une liste noire des paradis fiscaux. Le problème, c'est que des listes noires, grises et tout le nuancier avaient déjà été établis. Avec toutes les listes déjà annoncées, on pourrait constituer un bottin, si vous me permettez cette image. Convenons-en un peu, 20e siècle. Le problème, c'est que les sociétés impliquées, elles, sont bien du 21e siècle. L'immédiateté des flux financiers, la facilité des tours de passe-passe entre les législations nationales, la multiplication des prête-noms, des sociétés écrans créées dans l'instant, tout cela rend les opérations indétectables, à moins précisément de bénéficier de fuites massives de documents issus de ces paradis fiscaux. Face à cela, que peut faire l'État? Va-t-il former des équipes spécialisées, renforcer les effectifs des contrôleurs des impôts, en particulier à la DGFiP et à la DNVSF, deux structures de Bercy? Eh bien non, les effectifs sont réduits depuis 10 ans. Les contrôleurs sont seuls ou presque face à des dizaines de sociétés gigognes réparties dans les endroits les plus inaccessibles de la planète. Bon courage. Pourtant, face aux épidémies, on commande des millions de vaccins. Face à la délinquance et au terrorisme, on recrute des policiers. Face aux Paradise Papers, on s'indigne à la télévision. Certes, on ne peut nier les progrès obtenus depuis 2008, la liste de ces paradis fiscaux se rétrécit, on ne peut pas oublier non plus les efforts de la commissaire européenne Margrethe Vestager, qui a attaqué le groupe Amazon au Luxembourg et Google en Irlande pour leurs montages fiscaux précisément. La réglementation européenne va progresser, nous dit-on. Le problème, c'est que les listes noires ne font pas mention des pays européens qui alimentent ce système. Le cas de Nike, l'équipementier, l'a prouvé, c'est aux Pays-Bas que se joue d'abord une partie de cette mystification fiscale, d'où la place éminente de ce pays pour les investissements directs américains en Europe, comme le note Christian Chavagneux dans Alternatives économiques.
Alors dans ces révélations, Frédéric, les blasés comme les indignés y trouveront leur compte.
Oui, l'expression même de paradis fiscal, si l'on y pense, traduit bien l'indulgence historique à leur égard. Un paradis, c'est théoriquement l'Éden des justes et des vertueux. Il est ici l'abri de ceux qui trichent et de ceux qui cachent. Dès lors, est-il possible de modifier une anomalie dont chaque révélation nous dit en fait qu'elle est systémique et non pas accidentelle? On peut douter qu'une fois passée l'adrénaline de ces enquêtes, ne retombe un morne silence impuissant jusqu'aux prochaines révélations.
Merci beaucoup Frédéric Saïs, votre billet est à retrouver sur le site de France Culture. Alors puisque vous avez parlé de paradis, nous on va parler de métaphysique, on va parler de laïcité, mais on va faire réagir malgré tout nos invités, la politiste Anastasia Colosimo, bonjour, et Raphaël Glucksmann que nous retrouvons, Raphaël Glucksmann, sur ces Paradise Papers avec nous disait Frédéric un discours de la part de ministres de droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, des échos à la Georges Marchais. Que reste-t-il à la gauche sur ce terrain-là?
Il reste, comme sur beaucoup de terrains, plus grand-chose. Enfin, rien et tout à la fois. Rien parce qu'elle est inaudible et qu'elle est en ruine. Et tout parce que ce qui est important dans la chronique qui vient d'être faite, c'est le mot systémique. Il y a un problème systémique. Encore dans les Panama Papers, on pourrait nous expliquer qu'il s'agissait de pirates. Là, il s'agit d'un système tout entier. Or, la volonté de transformer ce système et de réhabiliter les droits du tout, de l'État, mais de l'État en tant qu'émanation du tout sur les parties, eh bien, c'est censé quand même être le moteur de ce qui a jadis été la gauche. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de transformation. Quand ils étaient au pouvoir, ces soi-disant gens de gauche, il n'y a pas eu cette transformation, il n'y a pas eu cet horizon collectif qui s'est dégagé, et ils le payent aujourd'hui. Mais ça, c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche, eh bien, il va falloir qu'elle retourne à la bibliothèque, qu'elle reprenne chacun de ses mots et qu'elle travaille. Qu'elle travaille. Elle n'a pas travaillé en 2002 quand elle s'est pris une claque. Elle n'a pas travaillé en 2007 quand elle s'est pris une claque. Et finalement, le mouvement de balancier traditionnel lui permettait d'être fainéante et de plonger dans un long sommeil dogmatique. Eh bien, au moins, ce qu'on peut reconnaître à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce balancier, il est brisé et que si la gauche, elle veut avoir un avenir, il va falloir qu'elle travaille.
Anastasia Colosimo, vous connaissez bien les bibliothèques sur le discours que pourrait porter la gauche, que porte d'ailleurs aujourd'hui la droite. Quelle distinction et quel regard portez-vous
sur les Paradise Papers? Je pense que c'est pas, pour le coup, je pense que c'est pas vraiment une question de droite et de gauche ou de gauche. Je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus fondamental et qui est beaucoup plus systémique et qui est que les États, en fait, n'ont sans doute en amont pas fait le travail, mais aussi que la finance mondiale est devenue tellement tentaculaire, monstrueuse et technique aussi, que les États n'ont plus les moyens, en fait, de leurs ambitions sur ces questions-là, qu'une gouvernance internationale sur ces questions-là paraît impossible, comme sur malheureusement beaucoup de sujets, et que donc voilà, je suis vraiment pas convaincue que ce soit une question de droite ou de gauche.
Non, c'est vrai, vous avez raison, c'est une question de la faiblesse du politique face à ces multinationales, et c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette Europe. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste un marché dérégulé ou est-ce qu'il y a un projet politique derrière le projet européen? Et quand on voit l'attitude des Pays-Bas, ça prouve qu'on n'y est pas encore à ce projet politique. Il va falloir réellement faire de l'Europe autre chose que cette commission Juncker.
Oui, mais parce qu'il
Anastasia
y a eu... Il y a eu un mensonge aussi, je pense, sur le fait qu'il pouvait y avoir une Europe politique, qu'il pouvait y avoir une véritable solidarité européenne. Et on voit très bien ici, justement, typiquement sur ces questions d'impôts sur les sociétés, que cette solidarité, elle n'existe pas. Et on voit mal, d'ailleurs, comment elle pourrait exister.
Ah ben, ça, c'est tout ce qui va nous différencier. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y aura pas de salut en dehors de cette solidarité-là, que donc c'est le rôle, effectivement, d'une gauche internationaliste, de la construire, cette solidarité, de rendre politique le projet européen.
Ou de l'imposer.
Mais bien sûr, de l'imposer comme tout projet politique s'impose dans le débat public, démocratiquement. Mais il faut...
Oui, c'est ça le problème, en fait.
À l'échelle nationale, on n'y arrivera pas. À l'échelle nationale, il y aura toujours ces trous noirs. Et à l'échelle nationale, on peut avoir tous les projets qu'on veut.
Le problème, c'est qu'on a vu dans l'histoire ce que donnait le fait d'imposer la solidarité.
Ah, vous allez me comparer à un nazi, c'est
non,
ça
non, non, pas du tout, c'est pas. Vraiment pas.
Alors,
non, je parle de la gauche.
Un bolchevique.
Non, je ne vous compare pas du tout à un bolchevique. Je dis juste que malheureusement, c'est terrible, mais c'est difficile d'imposer, en fait, la solidarité. Et on le voit très bien dans le cadre de l'Union européenne.
Eh bien, on n'a même pas tenté dans le cadre de l'Union européenne de le faire. Et donc, il faut construire cette solidarité. Il faut construire un projet. Si les gens n'en veulent pas, eh bien, il faudra accepter de le laisser tomber. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Europe de l'entre-deux, du statu quo, ne fonctionne pas.
D'accord.